Mais bien, chers amis, on dit des fous qu'ils n'ont pas conscience du réel, qu'ils vivent dans la lune, qu'ils s'évadent dans des rêves et prennent ces rêves pour des réalités. Ils en tirent des joies ou des colères, mais de toute façon, qu'ils soient internés ou non, on n'est bien pas responsable de leurs actes et l'on se garde bien de leur confier des fonctions ou leur comportement pourrait nuire à d'autres. Eh bien, il y a des gens qui occupent des positions de responsabilité, qui n'admettront jamais être atteints du moindre degré de folie et qui pourtant, en maintes occasions, raisonnent et tirent des conclusions sans rapport avec le réel, en pleine contradiction même avec des réalités qui s'étalent devant leurs yeux, surtout en matière d'économie politique. Ce genre de folie semble même se développer dans les pays évolués à mesure que la population s'imagine croître en civilisation, à mesure qu'on s'y enorgueillit davantage de progrès matériels. On y perd le sens du réel, et l'on y revient bien que si des circonstances éloignent de la civilisation, ou bien si des fléaux majeurs s'abattent sur ces pays. En veut-on des exemples? Des hommes qui se trouvent isolés dans un désert ou dans quelque autre région aride vont immédiatement se mettre en quête de baies, de racines pour passer leur faim ou de quelques traces d'eau pour ne pas périr de déshydratation. Ils pensent et agissent en termes de réel. Au contraire, au sein de la civilisation offrant d'abondance de toutes sortes, dans une ville où les magasins regorgent de produits, les hommes pensent et se comportent en termes d'argent. Et si l'argent leur fait défaut, ils se condamnent à crever de faim en face de l'abondance qui est pourtant une belle et bien visible réalité. De même, un pays en pleine paix, riche de productions naturelles, actuelles ou potentielles, soumet ses activités productrices et le niveau de vie de ses habitants aux pulsations d'un crédit financier qui peut lui être accordé ou refusé, prodigué ou rationné, non pas par ses producteurs, mais au gré d'hommes ou d'institutions qui en ont le contrôle. Mais que ce même pays tombe dans les affres d'une guerre qui l'oblige à consacrer une bonne partie de ses capacités productives à fournir des engins de destruction, et la fleur de ses hommes valides à tuer ou à être tués, son gouvernement cesse immédiatement d'admettre des réductions de crédit. Il refuse de s'arrêter pour manque d'argent. Il ne pense plus qu'en termes de réel, en termes de bras et de matériaux. Comme disait Roosevelt, il ne permet plus d'être entravé par le non-sens financier. La guerre finie, ce pays reviendra, hélas, à régler sa vie économique en fonction de l'argent, en fonction d'un signe conventionnel qui n'est ni nourriture, ni vêtements, ni logement, ni santé, ni instruction. Ses gouvernements, son élite diplômée, ses dirigeants de tous étages raisonneront, jugeront, recommanderont ou imposeront des décisions sans rapport avec le réel. Folie et fou de grande classe, ce qui a fait dire à Jacques Dubois, fondateur du mouvement français pour l'abondance, « Nous vivons dans un monde de fous dirigés par les plus remarquables d'entre eux. » Ces fous, remarquables ou qui croient l'être, on les trouve dans les cabinets de ministres, dans les parlements, sur les tribunes publiques, dans les colonnes des journaux, dans les studios de radio, sur les écrans de télévision, dans les chaires d'économie de nos universités. En page éditoriale du journal La Presse du 20 janvier, Roger Champoux, commentant la menace d'une hausse de taxes pour les Montréalais, s'imagine très bien raisonner en disant et répétant que le progrès doit se payer. Montréal a progressé, l'heure est venue de payer, conclut le journaliste de La Presse. Il insiste, quand bien même on déciderait d'arrêter tout progrès désormais, le progrès acquis doit être payé. Le progrès déjà fait, déjà réalisé, doit être payé. Mais reste à savoir comment, ajoute-t-il. Pauvre Roger Champoux, Au lieu de vous demander comment payer le progrès réalisé, vous feriez bien mieux de réfléchir un peu en termes de réel pour vous demander qui a réalisé ce progrès, puis à qui peut-il être question de le payer. On va vous aider un peu dans ce raisonnement en termes de réel auquel vous n'êtes sans doute pas habitué. Le progrès, rue nouvelle ou élargie ou améliorée, trottoir renouvelé, prolongement des conduites d'eau, nouveaux égouts, embellissements, etc. Voilà certes des attestations de progrès matériels réalisés, mais un progrès qui ne s'est pas fait tout seul. Il a fallu y mettre des bras, des heures de travail, des ingénieurs, de la direction. Il a fallu aussi que des producteurs de biens de consommation fournissent des produits alimentaires, des vêtements et tant d'autres choses pour l'entretien de la vie et de la santé des travailleurs affectés directement aux améliorations et développements municipaux. Ces bras-là, M. Champoux, ces ingénieurs-là, ce travail-là, ces matériaux, ces biens de consommation, sont-ils venus de ceux à qui vous dites qu'il faut payer le progrès? Dans un autre article de vous, dans la presse du lendemain, vous revenez sur le sujet. À croire que vous avez l'impression d'être une experte. Vous citez le maire Jean Drapeau, disant à une auditoire de Toronto que le seul service de la dette montréalaise exigera cette année une somme de 60 millions de dollars. 60 millions, c'est certainement une grosse somme quand ça ne sert qu'au service annuel de la dette. 60 millions qui ne vont rien apporter en retour à la population. Pas un seul sac de ciment, pas un seul bout de tuyau, pas un seul pouce cube d'air pur. Et ce morceau du budget annuel, prélevé de gens qui bâtissent leur ville, qui font tourner la route son industrie, qui édifient son progrès, va être versé à des gens qui ne fournissent à ces travaux ni matériaux, ni bras, ni cerveaux, ni produits d'aucune sorte. Est-ce cela que vous appelez payer le progrès? Avez-vous l'esprit normal, monsieur? Raisonnez-vous en termes de réel, ou bien le sens du réel est-il obnubilé chez vous par l'acceptation aveugle du truc financier qui permet l'exploitation légalisée des Montréalais? Pourtant, il y a dans ce deuxième article de vous, monsieur l'expert, une constatation qui devrait vous ramener au sens du réel, si votre cas n'est pas désespéré. Vous remarquez, en effet, que le cas de Montréal n'est pas unique, que s'il est frappant, c'est parce qu'il s'agit de la métropole, mais que toutes les municipalités, le modeste hameau comme la grosse cité, sont dans la même situation. Cela devrait vous faire comprendre, monsieur, que, d'une part, les travaux peuvent être exécutés à Montréal ou à Tadoussac ou à Sainte-Rose-du-Dégelé ou n'importe où dans la province, que matériaux et produits de consommation peuvent sortir de fermes de l'Estrie, de forêts de la Gatineau, d'usines de la Mauricie ou de n'importe où dans la province, que par conséquent, c'est toute la population laborieuse de la province qui contribue directement ou indirectement au progrès se réalisant n'importe où dans la province, et que, d'autre part, c'est toute la population de la province où qu'elle vive qui se trouve endettée pour le progrès accompli. D'un côté, donc, la somme des activités et des réalisations. De l'autre côté, la somme des dettes municipales, scolaires, provinciales et autres. Qui donc produit le progrès? La population. Ce qu'elle ne fait pas elle-même, ce qu'elle doit obtenir de l'étranger, elle le compense par ses propres surplus de produits qu'elle envoie à l'étranger. Or, qui, d'après le journaliste de la presse et toutes les autres têtes pensantes du système, qui doit payer ce progrès une fois qu'il est accompli? La population qui l'a elle-même accompli. Le payer à qui? À des trafiquants de piastres qui peuvent être à Montréal, à Toronto, à Cleveland, à New York, à Londres, à Paris ou ailleurs. Ne trouvez-vous pas, cher monsieur Champoux, que ça ressemble à un détraquement d'esprit? Et cette pratique insensée, bien établie dans la province de Québec, l'est également dans tout le Canada, également aussi dans tous les pays qui se piquent de civilisation avancée. Vous avez intitulé votre article du 21 janvier « Le prix de la grande vie ». Ne pensez-vous pas qu'il eût été plus juste d'écrire « Le prix de la grande folie » ? Vous trouveriez certainement fou de vouloir faire un boulanger payer le pain qui sort de son propre four, de vouloir obliger le cultivateur à payer le blé qu'il a lui-même récolté dans son champ. Autrement fou, folie dépassant toute mesure, de faire toute la population payer des développements qu'elle a elle-même réalisés. Mais, objecterait sans doute le journaliste et des bons de toute dénomination avec lui, il a fallu de l'argent pour financer ces développements, de l'argent que les municipalités n'avaient pas, de l'argent qu'elles ont dû emprunter, et c'est pour cela qu'elles sont endettées et doivent maintenant payer. Voyons un peu. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, vieux ou nouveau, taxé ou emprunté? On mobilise du travail et des matériaux, on met en œuvre la capacité de produire du pays, capacité qui existe déjà puisqu'on peut l'utiliser. Quel est en tout cela le rôle de l'argent? C'est un rôle de permis. Et c'est rien que cela, l'argent. L'argent ne crée rien, absolument rien. Il n'est qu'un permis de mettre en mouvement ce qui existe déjà. Et si un pays, possédant tout ce qu'il faut pour produire les choses dont il a besoin, ne les produit pas, s'il reste en panne sous prétexte qu'il manque de permis, c'est une autre grande démonstration de folie. Comme les permis sont valables sur tout ce qui existe dans le pays, en fait de moyens de production, génie, main-d'œuvre, matériaux, transport, l'émission et la dispensation de ces permis ne pourraient, ne devraient légitimement relever que de la nation elle-même, non pas de particuliers qui en font un trafic pour s'enrichir et pour se donner un pouvoir de contrôle sur toute la capacité de production, la paralysant ou la ralentissant ou conditionnant ses objectifs et son exercice. Par quel tour de magie a-t-on réussi à faire croire à un pays capable, par exemple, de construire 50 000 de routes qu'il ne devra en construire que 25, n'aura de permis que pour ces 25, et en outre sera endetté envers les dispensateurs des permis pour toute la valeur de construction de ces 25 000 avec de l'intérêt en plus? Comment peut-on faire admettre par des gouvernements et justifier par des journalistes un resserrement du crédit financier, des permis donc, alors qu'il n'y a aucun resserrement de la capacité de produire et qu'il y a encore des demandes à satisfaire? On pourrait poser tant autres questions du genre, démontrant à l'évidence que le système financier qui nous régit est pourri, qu'il empoisonne la vie économique, qu'il empoisonne les administrateurs publics, qu'il empoisonne l'enseignement et les plumes des journalistes, qu'il empoisonne les relations entre les hommes, et qu'il fait tous les taxés que nous sommes payer pour ce poison.